on devient plus sensible à ce genre de discours avec des solutions faciles.
J'ouvre le numéro 89 d'un trimestriel, c'était celui de décembre 2024 qu'on connaît bien en Creuse et particulièrement sur le plateau de Mille Vaches, qui est l'IPNS. Marcus Pereira, vous mettez Trump en couverture.
Ouais, celui qu'on a appelé le mini-Trump, c'est notre nouveau député de la Creuse, Bartholomé Lenoir. Il est sorti de nulle part et s'est présenté aux législatives sous la bannière de l'Union des droites en défendant le nom de Jordan Bardella pour Premier ministre et il a été élu au bénéfice d'une triangulaire.
Il a 34 ans à l'époque, là, 36 aujourd'hui. Qui il est? D'où il vient?
Alors Lenoir, il vient d'une grande famille bourgeoise de l'ouest de la France qui a fait toute sa scolarité dans des écoles privées extrêmement coûteuses. Et il a le projet de se lancer en politique et devient auditeur à l'IFP, l'Institut de formation politique, qui a contribué à former aujourd'hui toute une kyrielle de cadres de LR, du Rassemblement national, de Reconquête, également de mouvements associatifs d'extrême droite, des gens qui ont œuvré à la Manif pour tous, et évidemment des médias de la sphère Sterrin-Bolloré. Et donc Bartholomé Lenoir, il va se faire connaître en devenant directeur d'une de ces organisations, donc qui s'appelle Contribuables Associés, que les spectateurs de CNews connaissent bien parce que ça fait partie des invités réguliers, cette association qui en fait pousse les idées libertariennes, ultralibérales. Et dès ses premières semaines de mandat, il a écumé tous les anniversaires, il a visité tous les EHPAD, les clubs de foot, enfin voilà, essayer de faire une grande campagne de terrain, un territoire qu'il connaissait encore pas un an avant. Je ne sais pas jusqu'où il va faire illusion, mais en fait, ce qui nous a frappé, c'est que dès les premières semaines, il a manifesté une très grande agressivité et une façon de vouloir diviser les habitants, insister sur des fractures réelles ou imaginaires, et creuser des clivages. Et il y a une façon, encore une fois, la manière de Donald Trump, de désigner des ennemis. C'est les étrangers. Alors, les étrangers en Creuse, quand même, on en voit très peu, on n'en voit pas beaucoup. Et puis, tout ce qu'il appelle l'ultra-gauche, qui est une espèce de catégorie très, très vague, mais qui, globalement, rassemble tout ce que le territoire compte de militance.
La parole est à Monsieur Bartholomé Lenoir.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, je voudrais vous parler d'un scandale qui touche le département de la Creuse. Le comité d'entreprise d'Enedis y possède un centre de vacances. Ce centre de vacances a été mis à disposition d'une association militante qui prône, je cite, « une société post-apocalyptique ». Une centaine de personnes a pris ces quartiers dans ce lieu à ne rien faire. Mais pire, cette zone constituerait une zone de repli lors de manifestations violentes comme à Sainte-Soline. C'est un scandale, car à quelques centaines de mètres de cette zone vivent des Français honnêtes qui ont toujours été fidèles à la France, même quand elle les a oubliés. Ils vivent aujourd'hui dans la peur d'être squattés à côté d'individus qui considèrent nos agriculteurs comme des nuisibles. Alors, monsieur le ministre, oserez-vous empêcher l'implantation d'une ZAD en Creuse et mettre fin à ce duo association d'extrême-gauche, parti d'extrême-gauche, qui menace mon département et nos campagnes? Merci.
Je vous remercie.
La parole est à monsieur Creuse, selon lui, est menacée de devenir une ZAD à l'échelle du département.
Il a harangué le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale en l'alertant sur l'existence d'une ZAD dans le village de Faux-la-Montagne. Alors, il ne s'agit absolument pas d'une ZAD. Depuis plusieurs années maintenant, un ancien centre de vacances d'EDF est occupé par un groupe de jeunes personnes avec l'aval d'EDF qui a signé avec ses occupants une convention d'occupation. Donc on n'est même pas dans quelque chose qu'on pourrait appeler un squat. Et Bartholomé Lenoir fait état de centaines de personnes qui seraient une base arrière pour semer le chaos en France. Bon, ils sont une dizaine à tout casser. Donc là encore, on est dans une fake news totale. Et donc quand effectivement à Royer, on voit des agressions racistes absolument désinhibées, moi, je pense que le contexte national donne une forme de légitimité à ces personnes pour laisser libre cours à leur agressivité et à leur pulsion raciste.
Ce que je vois en tout cas, c'est qu'immédiatement après, justement, le député s'est précipité au secours de ces pauvres villageois qu'on accusait à tort.
Étienne Lejeune, maire PS de La Souterraine.
Mais le rôle du parlementaire, le rôle du député, le rôle des élus, ça doit être de dire, écoutez, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, organiser des événements pour que les gens se rencontrent. Donc ça devrait être ça. Et au contraire, en fait, on a un député qui essaie de surfer dessus et qui remet à chaque fois deux balles dans le jukebox pour relancer le débat et puis essayer de fracturer un peu plus les gens et les choses sur ce territoire. Et c'est terrible. Et puis derrière, d'en profiter, c'est quand même assez extraordinaire, d'en profiter pour finalement rendre l'extrême gauche, alors l'extrême gauche, la gauche en fait et les humanistes, responsables de ce qui se serait passé presque. C'est-à-dire que quand on écoute le député et son discours par rapport à ce fait-là, c'est presque l'ultra-gauche qui est responsable de ça parce que finalement, elle refuse que le bon petit villageois français de Royer puisse vivre tranquillement dans son village.
C'est ce qui s'appelle la post-vérité.
Oui, on est là-dedans et ça, je dois avouer, alors je dois lui reconnaître une chose, c'est qu'il est très doué pour ça. Il est très doué. Malheureusement, ça prend.
C'est une libération de cette parole-là et de la part notamment de notre député actuel qui, dès le début de son mandat, a monté en fait, les creusois les uns contre les autres.
Quentin Liabeau, de la librairie L'Apothicaire à La Souterraine.
Une mise en fait en concurrence de différentes façons d'être creusois. Je sais que Bartholomé Lenoir, notre député, aime beaucoup parler des creusois de souche face aux creusois gauchistes qui auraient envahi le territoire. Et pour l'instant, moi, ma réflexion, elle est à l'état purement théorique, avec peut-être la tentative d'une mise en pratique, j'en sais rien, mais il faut absolument que la peur change de camp, en fait. On ne peut pas, en fait, être à la remorque de ce que véhiculent ces gens haineux et violents, mais vraiment, vous voyez, vraiment violents dans leurs actes, dans leurs mots. Et il s'agit, à mon sens, de changer un peu la chose et leur faire peur. C'est pas forcément leur faire peur par la violence physique, c'est pas l'objectif. En revanche, c'est être sûr de nos positions, sûr de notre humanisme, sûr de notre tolérance vis-à-vis de tous et toutes. Voilà, je pense qu'il y a toujours des possibilités en fait, de solutionner ça. Je suis pas dans le monde des bisounours, c'est pas l'idée, c'est pas ça. Je pense que, surtout, il faut qu'on clame haut et fort ce qu'on pense et comment on veut vivre et pas se laisser impressionner par ces gens-là.
Olivier Cagnon, on dit monsieur le maire, depuis peu.
Oui, donc je suis maire de Felletin depuis un an.
Dans les nouveaux arrivants, vous, ça fait combien de temps ?
Et ça fait 17 ans aujourd'hui que je suis en Creuse.
Donc, d'une certaine manière, très cher Olivier, vous avez fait partie de ceux qui ont repeuplé.
Oui, je fais partie peut-être de ceux qui ont participé à repeupler, mais humblement, hein, on est arrivé dans un endroit qui était déjà habité, où il y a déjà des choses qui se passaient. En fait, Felletin, c'était une ville vivante, c'est aussi pour ça que je m'y suis installé. Il y avait un marché, des associations dynamiques depuis plusieurs décennies. Donc c'est pas les nouveaux arrivants qui font vivre un pays qui était mort. Le pays n'a jamais cessé de vivre, simplement il s'était en partie dépeuplé. Et je pense que c'est important de le comprendre.
Pour comprendre ce qui s'est passé ou ce que signifieraient peut-être des choses qu'on peut lire dans l'histoire de Royer de Vassivière, dont peu de gens me parlent au micro finalement, puisque ça appartient peut-être aux habitants ce qui s'est passé, même si ça a fait venir beaucoup de monde.
Je ne vais pas m'exprimer sur ce qui s'est passé à Royer, mais en tout cas, ça me semble toucher ou entretenir quelque chose qui est de l'ordre du clivage, d'un clivage qui est réel, hein, entre Mais c'est là où il faut prendre des pincettes et beaucoup de nuances entre gens d'ici, gens pas d'ici, entre gens de droite, gens de gauche, entre écolo et pas écolo, entre voilà. Et c'est ça qu'il faut à la fois essayer de comprendre et puis soigner. Parler à son voisin, parler à celui qui est dans le café et se parler. Et ça, honnêtement, les gens le font aussi. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des un clivage qui apparaît ou qui revient fortement quand il y a des faits divers comme celui-là. Il y en a d'autres, il y en a eu d'autres par le passé. Mais aussi, au quotidien, il y a des gens qui font du lien de manière invisible et aussi des choses qui se normalisent.
Allons plus loin dans cette affaire, puisqu'il serait tentant aussi de voir que, avec votre député qui attise cette haine, c'est, qui ne facilite pas, on pourrait le dire, le vivre ensemble.
Évidemment, ça, on a un député qui est particulièrement idéologue. C'est-à-dire qu'il a ses obsessions, les immigrés, les ZAD. Mais en tout cas, il ne faut pas donner aux députés plus d'importance qu'il n'en a. Et en même temps, il faut aussi réagir quand il y a des contre-vérités aussi énormes qui sont énoncées. Et on est dans une bataille du récit, on est dans une bataille médiatique. Et il faut qu'on prenne notre part. Nous, en tant qu'élus locaux, on ne peut pas laisser passer tout et n'importe quoi.
Alors comment, ce récit, on se le réapproprie ?
Eh bien, qu'il soit le nôtre, moi je pense que c'est important que le nôtre il soit incluant. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la culture rurale qui se sent méprisée, délaissée. Et ça, il faut absolument l'entendre. On sait que c'est un des moteurs du vote Rassemblement National, du vote extrême droite. Et on le voit dans ces événements-là, comme à Royères, où on sent que ça fédère une réaction de solidarité entre les chasseurs, les agriculteurs. Ceux qui font de la moto, voilà, des gens qui se sentent jugés négativement dans leur mode de vie. Et là, il y a quelque chose à soigner et à traiter à cet endroit-là. Et les nouveaux arrivants ne sont pas exemples de défauts. Des gens qui arrivent aussi de façon très maladroite, un petit peu en terrain conquis, ou avec l'image qu'en fait, il n'y a rien avant eux. Oui. Voilà, il faut aussi faire une autocritique de ce côté-là. Et il ne faut pas oublier aussi que dans l'histoire, les cultures paysannes ont été balayées avec une grande violence. Que les zones rurales ont toujours été un petit peu les parents pauvres, dans le sens méprisé. Et je pense que ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est aussi un ras-le-bol, un sentiment d'être relégué, d'être dominé aussi. Et ça se voit dans les façons d'agir. On va avoir des revendications politiques de la part de nouveaux arrivants qui vont s'exprimer avec des tags, avec l'occupation de domaines publics, des choses qui ne sont pas du tout dans la culture locale et qui sont au contraire très mal vécues, très mal perçues. C'est là où je dis qu'il y a aussi des indélicatesses et des erreurs qui sont commises. Et après, c'est plus difficile aussi de se parler, d'être en interaction.
Ce que j'ai vu aussi, c'est lors de la première réunion qui a eu lieu à Royères, 2 jours après.
Véronique Decker, correspondante locale du journal La Montagne.
2 jours après, il y a un monsieur qui est venu pour porter la parole des agresseurs en disant, voilà, je viens, parce qu'il y a 2 versions des faits, il y a la vôtre et puis il y a la leur. Et je trouvais vraiment bien que quelqu'un vienne pour tenter une médiation, d'autant qu'il semblait extrêmement sincère, cette personne. Et quand il a vu le jeune homme, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu faisais dehors à 4 heures du matin ?» Alors, il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit d'un jeune homme, adulte, majeur, responsable, fait ce qu'il veut à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui était dit ? Ce qui était dit, c'est comment tu n'as pas imaginé que tu pouvais être en danger à 4 heures du matin, le soir d'une fête. Donc, évidemment, la salle a réagi. Et là, j'ai vu à quel point on est dans une pensée coloniale, non dite. Donc, cet imaginaire qui a bougé en ville en raison de l'intégration de ces populations issues de l'immigration, elle a beaucoup moins bougé dans la campagne. Le jeune homme de Royères de Vassivière est un des seuls noirs. Non, il y en a 2. Il y en a un qui est cuisinier à l'atelier. Mais c'est une population qui n'est pas confrontée du tout ni à l'immigration. Et par ailleurs, ce jeune n'est pas un migrant. c'est un Français élevé en France, qu'il dispose ou non de la nationalité, on est toujours du pays où on a passé son enfance. Hein. Et je comprends que ça percute les gens qui ont été élevés dans cet imaginaire colonial. Mais il faut que le monde bouge. Et je ne suis pas sûre qu'on le fera bouger uniquement à coup de procès.
Ces gens-là sont violents.
Paco Valta, libraire, à manière l'étrange.
Ces gens-là propagent de la haine, mais il y a du répondant en face. Il y a des gens qui s'organisent de plein de manières, que ce soit de manière frontale en allant arrêter un rassemblement, par exemple, comme il y a pu avoir avec l'avenue du collectif Némésis il y a quelques mois, ou en faisant de la pédagogie, en montant des lieux culturels, en faisant du lien social dans les villages, etc. En tout cas, il y a une vraie réponse, il y a une vraie volonté, et je pense que cette volonté, elle est vraiment majoritaire, bien au-delà de la pensée d'extrême droite, qui est souvent très visibilisée.
C'est vrai que c'est ça, certainement, ce tissu associatif qui, à nous, qui a dû aussi... Enfin, ça fait partie du package pour, toi, pour cette nouvelle vie.
Oui, oui, complètement. Moi, j'ai été travailleur social pendant 10 ans. J'ai travaillé avec des gens qui venaient du monde entier parce qu'on les accueille. Et du coup, arriver ici, faire ce métier-là en milieu rural, je me suis confrontée au racisme des voisins, des familles que j'ai pu accueillir, notamment d'origine syrienne, afghane. Donc le racisme, il existe, il est présent. Ce que je pense avant tout, c'est que c'est un problème de méconnaissance, de manque de lien. Et on est dans un territoire où la diversité, elle n'est pas très importante. Et donc, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de la différence, on a peur parce qu'on voit des choses à la télé, dans les médias mainstream, etc. Et c'est en créant du lien, c'est en amenant de la culture, en permettant par le tissu associatif, justement, qu'on peut petit à petit faire bouger les lignes. Pour moi, ça passe par la pédagogie, par tout un tas de choses beaucoup plus sympathiques que juste de se dire que lui, il est raciste et moi, pas.
Aujourd'hui, à Felletin, il y a quand même une dynamique qui est positive. Felletin se repeuple. Et je pense que ça se fait parce qu'il y a un tissu associatif qui est riche, parce qu'on essaye de faire du lien. Alors, quand je dis « on », c'est aussi bien les associations, les acteurs économiques, les élus dont je fais partie. Hein. On doit prendre notre part, même si ce n'est pas nous qui allons à nous seuls résoudre les questions de vivre ensemble. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de politique ou qu'il faut abolir les clivages politiques, hein, pas du tout, mais c'est important d'avoir des choses autour desquelles aussi on se retrouve.
Il y a une expression en langue doc qui est assez jolie.
C'est Shabbat Entra. Ça veut dire finissez d'entrer, donc c'est une expression qui est utilisée en Limousin, et c'est comme ça qu'on intitule à Felletin la soirée d'accueil des nouveaux arrivants qui a eu lieu là, ce vendredi. Finissez d'entrer, donc ne restez pas sur le seuil, rentrez dans la maison, et cette soirée qu'on fait tous les ans, elle est importante parce que les nouveaux arrivants viennent, mais aussi les associations, des anciens qui sont là aussi. Et c'est des moments, ça ne fait pas tout, mais c'est quand même des moments importants où les gens peuvent se rencontrer et s'apprivoiser un petit peu. Et je pense qu'on peut avoir tendance à manquer d'espace et de lieux comme ça. C'est pour ça qu'il faut les faire exister.
Mais c'est bien ici qu'on est, le BAM, c'est ça ?
Complètement. En fait, on est un bar associatif, donc du coup, en fonction des activités, on ouvre ou pas le bar.
Sébastien, du BAM, le bar associatif de manière étrange.
On n'est que des bénévoles, il n'y a pas de salariés. C'est un moyen de rencontre, parce que sur la commune, on n'avait plus rien, en fait. On n'avait plus de bar, on n'avait plus... tu vois ? Donc du coup, il y avait une vraie demande. Au niveau de nous, dans notre groupe d'amis, Et puis, vu la réussite, toi, par rapport au intergénérationnel, les anciens, pareil, le dimanche matin, on ouvre. Ils sont là à 10h moins 5, 5 minutes avant l'ouverture. Et si on n'est pas ouvert, ils font la gueule. Et ça, c'est chouette. Donc, en fait, il y a plein de choses qui marchent, en fait. Et ça, c'est de la politique. Moi, ce que j'appelle la vraie politique. On reprend la main, on devient moteur. Et avec des valeurs qui sont des valeurs d'ouverture, de partage. On peut partager les compétences, les connaissances. Et les plus anciens ont plein de choses à nous apprendre. Donc du coup, nous, on surfe là-dessus. Et ça peut peut-être éviter ce qui se passe à Roy.
T'es qui vient de passer, là ?
Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Tout le monde dit bonjour à tout le monde.
Ça, c'est normal.
C'est allez, on rentre.
C'est le verbe de dire bonjour à tout le monde. On se connaît tous. Hein.
Il n'y a personne encore dans le bar à cette heure-là.
Non, le bar est fermé.
Et le bar est fermé, oui.
C'est Atelier Tricot.
Atelier Tricot.
Tout le monde au tricot.
Non, tricot, couture ou crochet. Enfin, ouais, mais il y a de tout, de tous les âges et tous les genres.
Vous êtes sur quoi, là ?
On est deux à faire des rideaux, deux à faire des ourlets. Il y a Muriel qui apprend le crochet.
On n'a pas été présenté.
Ah oui, alors du coup, moi, je m'appelle Marie et je fais partie du groupe qui était à la base du bar associatif de Mania, le BAM. Et voilà, j'habite ici, je suis graphiste en télétravail et je rénove ma maison et j'élève ma fille avec mon conjoint. Et en plus, on fait le bar. Voilà.
Ce qui est génial, c'est qu'il y en a encore ici qui font des petits.
Des enfants ? Ah bah, on a un paquet à faire des enfants, ouais. Ah oui, là, on va repeupler la Creuse, là. Ah oui, non, ça n'arrête pas. Moi, ma fille, elle a 2 ans et demi, ça a été l'ouverture du bal, et puis depuis, ça tourne, donc on fait tourner les vêtements. C'est tout un, ouais, une danse de sacs de vêtements pour enfants qui tourne. Il y a une salle enfant aussi, je ne sais pas si vous avez pu visiter. Non, mais il se passe plein de choses et on est hyper heureux et on a été très bien accueillis par les locaux, les gens qui sont là depuis longtemps, qui nous ont, même encore cet après-midi, j'avais l'agricultrice, ma voisine, qui venait nous aider à monter nos palettes de pierre, 2 tonnes de pierre pour rénover le sol de la maison. Il faut les monter jusqu'à la maison, un coup de fil, ils viennent, les agriculteurs avec leurs tracteurs, ils nous aident. Enfin, franchement, c'est super, quoi. Il y a beaucoup d'entraide en Creuse. Donc, on est accueillis, quoi.
Si on plante le décor, c'est même pas une corvée, ça, Jean-Yves Le Sage, de décortiquer les noix du noyer du jardin.
Si, c'est très pénible. Et après, tu as les doigts noirs pendant une bonne semaine avec le brou, ça colle bien.
Si on plante le décor ici, pour un vieux militant comme toi, qui a constitué ce collectif antifasciste du département, Antifa 23.
J'en suis un des animateurs.
Mais avec quand même ce passé de militant.
Oui, je milite pour la Révolution mondiale depuis mes 14 ans. J'étais en Seine-Saint-Denis et les gens les plus à droite, c'était le PC. C'est assez simple, en fait, d'être pour la Révolution.
Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves ici, Jean-Yves ?
La faute de ma femme, elle ne voulait pas rester à Bobigny pour la retraite. Mais je ne regrette pas le choix.
Ici, Jean-Yves, Le Sage, tu vas pas me dire non plus qu'elle est si facile, cette vie.
Alors, elle est beaucoup plus facile parce que les gens n'ont pas la vie aussi stressante que celle qu'ils connaissent en Île-de-France. Moi, les premiers trucs qui m'ont surpris ici, c'est la gentillesse des gens, d'ouvrir la porte, de laisser les portes ouvertes, y compris. Enfin, non, c'est vraiment pas la même vie, oui.
Quand il y a une sorte de chasse à l'homme à l'homme noir qui poussait dans le village à 14 km à Royères cet été, là, on n'est plus sur des conduites non agressives.
Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de contradiction non plus. On est sur le glissement vers l'extrême droite, vers les idées racistes, qui prend une forme odieuse. Et ça a fracturé le village complètement, avec les familles historiques qui se sentent bousculées, qui sont d'ailleurs objectivement bousculées par les modes de vie culturels, la façon d'habiter, la façon de travailler. Évidemment, pour les vieilles familles historiques de paysans, j'entends bien où ça peut choquer, où ça peut froisser. Et sur un fond global de droitisation de la société, d'augmentation du racisme, de montée des idées portées par le RN, bah évidemment, c'est un terreau favorable. Qu'est-ce qu'il faut laisser ne pas dire, qu'est-ce qu'il faut penser aussi de ce silence à Royères des habitants, des premiers concernés de ce village divisé en deux, selon vous, Marcus?
Moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire ou penser à leur place. Je pense que c'est important de rétablir le dialogue. Moi, au-delà de l'agression raciste, j'ai été quand même frappé par le degré de tolérance à une certaine forme de violence qui, quelque part, ferait partie du folklore. Voilà, comme si, bah, finalement... ouais, on s'est toujours tapé sur la gueule à Royères de Vassivière après les balles, après les fêtes, et ça fait partie de la culture locale. Bon, moi, je suis assez choqué qu'on puisse s'accoutumer à ces formes de violence, et plus encore dans le cadre quand cette violence s'exerce dans une forme raciste. Mais je pense que cette accoutumance à des formes de violence physique et verbale, elle peut se résoudre, en tout cas au niveau local, que par le dialogue. À partir du moment où on a des personnes physiques face à soi, on dépasse le fantasme, on dépasse ces espèces de figures imaginaires ces élites politiques d'extrême droite essaient de nous vendre, en surfant sur une espèce d'angoisse existentielle qui est très liée à un contexte global, économique, politique, dont ils font leur miel aujourd'hui.
Ce dimanche, à Faux-la-Montagne, les militants cégétistes qui m'hébergeaient m'avaient conseillé d'aller à la sortie de la messe rencontrer celui qui y officiait de toute éternité, ou presque.
Ah, voilà notre artiste. Alors, qu'est-ce que tu fais de bon, alors? Tu interviews pour qui?
Gilles Gratzin, comment on vous appelle dans le village à Faux-la-Montagne?
Quelquefois père pour quelques-uns, mais la plupart du temps, c'est pour mon prénom.
Je vais vous parler d'une chose qui ne va pas vous amuser.
N'est-ce pas?
Le 15 août dernier, il s'est passé cet acte absolument condamnable d'une chasse que l'on dit à l'homme noir.
Oui, bien sûr, mais on a une montée aujourd'hui d'une espèce de nationalisme étrange. Il faut rester vigilant sur notre territoire, rester vigilant, parce qu'il s'agit de vivre ensemble et d'avoir une mixité sociale qui soit respectueuse. Enfin, quand même, c'est pas possible qu'il nous arrive des choses de ce genre-là. Oui, monsieur, on va faire ça. Bon, mais merci.
Bien sûr, l'extrême droite a des modes d'action dans la peur, etc. Mais moi, pour le coup, vu que je me retrouve mêlé à cette histoire judiciaire maintenant, pour une bonne partie de ma vie. Et du coup, je pense que, enfin en tout cas, j'aimerais qu'à terme, le procès ne devienne pas celui de les gauchistes contre l'extrême droite, parce que pour le coup, là, c'est pas le cas. Moi, je suis pas arrivé là-bas en tant que gauchiste, je suis pas arrivé avec des idées politiques, j'étais juste en train de faire la fête avec mes potes, et qu'on relate des faits, que les personnes soient jugées pour les faits qu'ils ont commis. Je pense pas avoir l'énergie non plus de lutter contre l'extrême droite. Dans un village comme Royères de Vassivière, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de logements, il n'y a pas beaucoup de travail non plus.
maître Colline Bouillon, il faut peut-être comprendre aussi que la figure principale de cette affaire, que nos confrères des médias ont appelé Maxime, en dissimulant sa voix lors de son témoignage, Maxime vit sur place. La question est peut-être pour lui de pouvoir rester et de considérer qu'il n'a pas à partir et à quitter ce territoire.
Alors très honnêtement, je ne sais pas quel va être le choix des différentes victimes à l'issue de cette procédure. Je pense que certaines d'entre elles se posent la question du maintien sur les lieux. Mais il y a à la fois des gens qui se sont parfaitement intégrés à la dynamique locale, telle que c'est le cas de Maxime, une volonté de s'installer.